Voir.
CIBL 105 Montréal.
Vivre Montréal, Montréal.
Alors, ici CIBL. On entre en onde bientôt. Dans 5 minutes.
CIBL 105 au cœur de Montréal.
Avec nous, souvent ça dégénère. Dans le monde, il s'en passe des affaires. Sous le signe des moustiquaires, on n'a pas de salaire.
Je pensais qu'on allait embarquer avec moi. Bon,
ben non, c'est parce que j'ai failli devenir sourd tellement mes haut-parleurs étaient forts dans mes écouteurs. À toi, Julie, en studio.
Bonjour et bienvenue aux Trois Moustiquaires, votre fenêtre embrouillée sur l'actualité, sur les ondes de CBL 101,5. Il est présentement 17h, ici Julie Fortin, vous l'avez entendu, accompagnée de Philippe Meilleur et Jean-François Simard.
Bonjour.
Mes salutations les plus sincères, les gars. Et oui, je tiens à vous le dire, nous sommes en pré-enregistrement aujourd'hui, c'est important de le rappeler. Et évidemment, on ne peut pas oublier notre quatrième moustiquaire invité, Jeffrey Rioux.
Allô, allô.
Très content de t'avoir avec nous en studio. Comment tu vas?
Ah, c'est un honneur. Je vais super bien.
Ah, oh, moi aussi, ça va tellement bien depuis que je sais que t'es là. Et on va pouvoir entendre d'ailleurs la chronique de Jeffrey un petit peu plus tard à l'émission. Mais avant de se lancer, comment s'est passée votre semaine, les gars?
Ben moi, je suis... Oui, non, mais c'est parce que j'ai une grande nouvelle à annoncer, puis je sais pas si c'est l'endroit. Est-ce que le mood est en mode bonne nouvelle aujourd'hui?
Ah, mais bien sûr!
Oui, oui Jeffrey, oui, Jean-François?
Correct.
Alors, tout le monde... Alors, ben voilà une nouvelle qui va te remettre de la bonne humeur au visage, Jean-François. Je suis officiellement devenu un influenceur.
Ben oh voyons donc!
Ah, bring it on! Je me suis fait te reconnaître dans la rue tantôt. Non, c'est pas vrai, mais... en fait, ouais, j'ai franchi, explosé la barre des 1000 abonnés.
Wow!
Sur TikTok, ouais. Ce qui est considéré comme nano-influenceur de niche. Donc, il y a quand même deux astérix à côté de mon record. Là. C'est micro-influenceur de niche. Quand même, hein, ça montre que la crypto, c'est cool. Quoi qu'en disent les élèves de l'ENH qui riaient de moi tantôt. voilà, j'ai-tu encore 10 minutes?
Pas 10 minutes, mais pour vrai, je te félicite.
Ben, merci. Hey, pour vrai, moi, là, la mission, c'est l'éducation et la sécurité avec la crypto. Hein. Ben oui, qui dit crypto dit sécurité. Hein. Tout le monde
bien
sait
sûr.
Ça. Alors, suivez-moi, crypto, barre en bas, fil, c'est la façon parfaite pour perdre 30% de votre portfolio. Comme aujourd'hui. Holy fuck, je sais pas si vous avez regardé les prix du Bitcoin et de l'Ether. C'est un fucking raz-de-marée actuellement.
Oui, je sais.
Oui, non, voilà. Non. Donc, rouge, le raz-de-marée, rouge. Oui, ouais, voilà. Donc, enfin.
Phil est émotif. Phil est émotif. Mais je te comprends et je te souhaite que ça dure.
Pour
non
vrai,
seulement ta popularité, mais aussi la montée
du
Bitcoin.
225 000 vues de vidéos en deux mois. C'est incroyable quand même.
C'est incroyable.
C'est beaucoup.
Et ce n'est que le début, Phil.
J'espère.
Je le sens. Je le sens. Et comment s'est passée ta semaine, toi,
Hey, ça va, depuis la dernière émission, j'ai été pour la première fois de ma vie à la lutte.
Hey. Oui, avec Vio.
Oui, exactement, notre ex-collaborateur ou futur collaborateur, ouais. Peu importe, le Vio, qui est venu à l'émission une couple de fois. Puis honnêtement, c'était très, très chouette. C'était au sein de la culture d'Hochelaga, culture avec un grand cul pour la lutte. mais honnêtement, c'était pas si chouette que ça, finalement.
C'est vrai? Parce que j'ai failli y aller, j'aurais aimé ça, mais non, c'était pas...
Comment je te dirais bien ça? La majorité des athlètes étaient comme moins en shape que moi, ce qui est pas nécessairement une bonne chose.
Il y avait
un gars qui s'appelait Bulldozer, c'est comme un monsieur de 60 ans avec une grosse bedaine qui fait juste genre ramer tout le monde avec sa petite bedaine. Mais bravo pour le nom, par contre. Le seul moment que j'ai trouvé vraiment incroyable, c'est à un moment donné, un gars qui s'appelait The Mobster, okay, c'est inquiétant, qui est arrivé, puis je peux le décrire de trois manières avec, c'est quelqu'un qui a un chandail noir, qui est chauve et qui a des jeans beaucoup trop tête blanche. il est arrivé sur le stage, puis moi puis Vio on trouvait ça drôle, puis Vio a crié « Enlève tes jeans! » Cinq secondes après, toute la salle a commencé à crier à The Mobster « Enlève tes jeans! Enlève tes jeans! » C'était incroyable. Puis plus tard, dans le journal, quand ils ont fait la critique, ça disait que The Mobster s'était fait dire d'enlever ses jeans.
Attends, wow. J'ai deux choses. J'ai quand même quelque chose. Arrêtons l'émission une seconde, Julie, si tu le permets. Il y avait une critique dans le journal du gala de lutte que tu es allé voir. Le
journal régional.
Ah, voilà.
Je pensais que c'était le journal de Montréal.
Moi, je fais pas de distinction. CIBL, c'est une radio. C'est pas une radio régionale, c'est une radio. OK. Puis, bref, tout ça pour dire que c'était très, très chouette. Puis, il a presque enlevé ses culottes à un moment donné. Il a enlevé sa ceinture, mais pour frapper son adversaire. Donc, la foule a rugi, mais pour se rasseoir, puisque non, il n'a pas enlevé ses culottes.
Ben là, ma décision est prise. La prochaine fois, j'y vais.
Ah, ben il faut, là.
Vasectomie ou pas, parce que oui, je me suis fait vasectomiser la journée du gala. Hey, j'aurais dû parler de ça à place de mon.
Ben oui, mais malheureusement, il faut faire des choix. Il faut faire des choix. Eh bien, écoute, tu me donnes presque envie d'aller voir un spectacle de lutte, un combat de lutte, enfin, JF.
Un gala contre.
Un gala, ben, pardon, oui. Pardon. Et puis, bon retour en studio, rappelons-le, Jean-François qui n'était pas là à la dernière émission. Et bon retour. C'est un plaisir. Et comment s'est passée ta semaine, toi, Geoffrey?
Ben très bien. Comme JF, je suis allé dans un événement mondain et puis.
la classe, là, oui, la haute.
La haute classe. J'ai visité le fameux Punch Club qui était à sa 128e oui. édition. Oh. Je pense pas qu'ils ont besoin de pub plus que ça. C'est quand même connu.
Ouais.
Puis c'est ça, là, t'sais, pas de règles, pas d'arbitre, très. Très freestyle, tout ça. Puis
c'est de l'impro, ça, le Punch Club?
Oui, exact.
C'est de l'impro de rue, ouais, si tu veux. Un petit peu comme des battles de rap, là, le okay. même genre, mais ouais. Avec l'impro. Fait donc, mettons... on oublie les règles de la LNI. Là. Ça n'existe plus, ça ne fait pas partie du concept. Et le but, c'est de puncher.
Ah, OK.
Ouais.
Puis, c'est ça. Il y avait, mettons, Fabiola Aladin, Florence Lompré, Anne-Elisabeth Bossé. Mm-hmm. Puis, ça se battait. Il y a même manqué d'électricité au début. Ils ont continué pareil.
Ah,
je trouve
ouais.
que c'était vraiment fort.
C'est bien.
Ça fait des beaux moments d'impro, ça.
Oui, exact. Tu vois que c'est vraiment pas scripté. Là, à moins qu'ils scriptent ça, je pense pas.
Non.
Puis, c'est ça. C'est pas mal ce qui conclut. Sinon, j'ai hâte aux chanteurs masqués.
Ah, ben comme tout le Québec, ouais. évidemment.
Travailler fort.
Ben oui, et puis cette semaine, moi, je tiens quand même à prendre un petit 32 secondes pour donner mon soutien hein, à tous ces Québécois en deuil cette semaine. Et par tous les Québécois, évidemment, je veux dire les abonnés de l'Extra, de Tout.tv, qui ont vécu le dernier épisode de 5e rang cette semaine.
Attends. 5e rang, il est juste sur Tout.tv Extra?
Ah, c'est juste les abonnés qui peuvent comprendre. C'est correct, Phil. Je vais pas refaire ton éducation. C'est que quand tu écoutes 5e rang ou certaines séries québécoises, quand tu es abonné extra tout.tv, tu as souvent un épisode d'avance. Donc, tu as une semaine d'avance. Donc, pour ces abonnés, c'était la fin de 5e rang cette semaine. Mais la grande question que je me pose, mais qu'est-ce qu'on va faire si on ne suit pas le crime organisé de Valmont? Je te le demande.
Est-ce que j'ai une question que tu pourrais peut-être répondre? Est-ce que Joël Paris-Beaulieu joue dans 5e rang?
Absolument.
Ah, bon! Hey, oui. Ma blonde là, qui écoute en ce moment avec les filles à maison, le spot d'Inside Baseball, là, dans ta face, je te l'avais dit qu'elle jouait là-dedans.
Absolument. Oui. On l'a moins vu vers la fin. Toutefois, elle faisait partie de la conclusion, mais on l'a moins vu probablement parce qu'elle était... Mais non, ça a été tourné cet été, ça. Non, c'est ça. Non, je retire mes propos. Je retire mes propos. Pardonnez-moi. Eh oui, cinquièmement.
On est dans une maison de personnes âgées, là, présentement.
Non, c'est alors, oui. Hein, désolée de vous l'apprendre. 5e rang, ce n'est pas en direct. Bon! Alors, aujourd'hui, les amis, tout un programme hein, aux trois moustiquaires. Comme d'habitude, on couvre l'actualité de la semaine à grand coup de niaiserie grâce à nos fausses publicités, des chroniques, une toune qui pourrait n'être jamais entendue, hein, faut le dire. Et
peut-être ne pas annoncer la chanson qu'on coupe au montage.
Bah, c'est pas grave. Regarde, notre public aime ça être près de nous. T'sais. Et sans oublier notre traditionnel débat et nouveauté cette semaine, on va recevoir en entrevue M. Christian Page, oui. spécialiste du paranormal, qui va venir nous parler de son plus récent livre. Mais pour le moment, direction Revue de presse niaiseuse avec Jean-François Simon!
Et oui, c'est moi. J'ai été absent lors de la dernière émission, vous le savez. Et à ce propos, je tiens à souligner le brillant travail de Phil.
Merci.
Qui m'a remplacé pour la revue de presse niaiseuse. Sérieusement, à part le fait que t'as oublié de mettre des jokes, c'était excellent. C'était brillant. Et ta brillante imitation de moi et de mes fameux reniflements.
Oui.
De quoi tu parles, man? J'ai jamais reniflé de ma sainte vie, là. C'est-tu moi et Yannick Demartino en 2001 en route?
C'est ça, exactement.
C'est pas la même personne.
Je me suis rendu compte, je t'ai rendu trop loin dans mon imitation pour dire que c'est exactement ça. Je finissais comme je punch out comme Yannick Demartino en route. Je me suis rendu compte que ça n'avait aucune commune mesure avec toi. Donc, mais j'étais juste rendu trop loin.
C'est ça, pas pu revenir en arrière.
C'est ça. Faut le faire à la fin de ta chronique, j'avais presque du respect pour Steve Diamond. C'est pour dire. Mais bon, c'est ça. J'ai quand même été un peu triste quand on t'a dit que c'était facile de faire ma chronique. Si bol fil ta chronique, c'est poser 5 questions à tes filles.
j'ai du montage à faire, faut que je trouve des
punch. Non. T'es le Joe Fresh de la radio, tu fais faire ton stock par des enfants de 8 ans. Honnêtement, je sais pas ce qui me retient de tant... Bref, tout ça pour dire, Phil, que je suis super, super satisfait de ton travail. Okay. Et merci d'avoir gardé le siège chaud pour moi. Mais maintenant que c'est l'heure de métaphoriquement te coller un coup de chaise dans le pliant de ma face pour reprendre ma place, dis-je.
On va que tu reviennes de la lutte, hein?
J'ai été inspiré par Bulldozer. là, les amis, je sais que ça fait un mois que vous attendez d'avoir vos prochains titres du sac de chips. Ben oui. Alors, cette semaine, c'est double ration. Et oui, j'ai pour vous deux fois plus de titres qu'à l'habitude, tellement que j'ai été obligé de les séparer en catégories. Hey. Donc, oui, commençons par la thématique la plus récurrente du sac de chips et j'ai nommé.
Hélène
Boudreau. Non. Ouais, non, c'est ça.
Elle mériterait sa catégorie.
Quiz.
Non, tu l'avais presque, Julie. C'est la catégorie Bisoun et Toton, évidemment.
Attends. C'est, la catégorie s'appelle Bisoun et Toton?
Non.
C'est une catégorie
inventée. Ah, okay, je pensais qu'on pouvait crier là-dessus au sommet. C'est sexiste un peu. C'est pas la même chose, là. En tout cas.
Bon, ben écoute. Tu feras une plainte à mon conseil déontologique, là. Qu'est-ce que je te dis? On part ça avec donc la catégorie Bisoun et Toton, avec un joueur de baseball connu filmé en train de tâter les seins de sa mère. Il s'endort au cinéma avec son pénis à l'air. Une famille sème l'hystérie et un combat éclate. Et deux joueurs de la NBA font une blague de pénis.
Attends, est-ce que c'est une nouvelle, ça? Ou
non, c'est quatre nouvelles.
C'est comme en rafale.
Ben oui, c'est ça.
C'est donc la même journée.
C'est ça. Ben, à peu près, tu sais. Mais tout ça pour dire que les lecteurs du sac de chips risquent de vivre vieux, puisque, comme le dit la célèbre expression, « One article de cul douteux par day, keep the doctor away. »
C'est bon.
C'est bon, hein, ça?
Ah ouais.
Bon, je me suis cassé tout seul. Autre titre lubrique, l'actrice Olivia Wilde s'est promenée en mamelon exposé.
Okay. Ah.
Se promener en mamelon exposé.
En mamelon.
C'est tellement bien formulé, on dirait un véhicule.
Ouais, c'est ça.
Je ne sais pas si c'est possible de faire Montréal-Gaspé avec une tank de mamelon exposé. Sinon, toujours dans la catégorie Bisoun et Toton, des nouvelles d'Hélène Boudreau, évidemment.
Ah, ben oui.
D'abord, avec l'article 32 photos sexy de la fille de l'UQAM pour ses 32 ans.
Ouais, wow.
Et l'article La fille de l'UQAM se serait fait en firouapé. Désolé pour l'atout. C'est à qui ça?
Je pensais que ça faisait partie de la joke.
Moi aussi, j'ai de la misère à savoir si l'atout. Il y avait comme un cue de blague que j'ai manqué.
On dirait tout faker.
Il y avait un gag, mais je l'ai choqué.
Écoutez, ça me semblait aussi.
Il sera disponible sur notre Patreon. Prochaine catégorie, l'inexorable juron et pète. On commence ça avec Denis Villeneuve a voulu mettre tabarnak dans Dune. Ouais. Un caca de chien unit l'Internet. Ainsi qu'un titre qui dit tout simplement « Je vais lui arracher son hostie graine. » Donc, pendant que le CRTC est en train de suspendre notre licence, passons à... Ouais.
Mais ça, c'est trois bons sujets de story de Guillaume le Métivierge.
Oui, c'est vrai. Hein?
On y reviendra plus tard.
Il est parti. Là.
Prochain titre. Un vaporisateur de pète cause l'évacuation d'une école secondaire.
Oh non!
Et ma question, Julie, est-ce que c'est une évacuation plus ou moins valide qu'un puma?
C'est plus valide que le puma.
Plus valide?
Ah, bien sûr.
Bon, mais écoutez, Julie, une femme qui a les priorités aux bons endroits.
Mais mettons que c'est un puma qui pète dans l'école.
Et ça, c'est toute une autre question. Phil, faudra faire une autre émission là-dessus. dernier titre dans la catégorie jouons et pets. Une influenceuse vend ses pets pour 300$. Bon, là, je vois Jeffrey sortir son portefeuille. Malheureusement, la demoiselle en question est en rupture de stock. Donc, Julie, c'est peut-être une industrie pour toi si tu veux délaisser les photos de pieds.
Ouais.
Et maintenant, place à la dernière catégorie que j'ai surnommée « Avez-vous vraiment gaspillé des pixels pour ça, gang de raisins? » Et on starte ça avec du journal rigoureux. Noémie Dufresne, s'en va se faire percer les seins. Et deux jours plus tard, l'article « Noémie Dufresne a souffert en se faisant percer les seins ».
Ouais.
Merci le sac pour le suivi.
On appelle ça un follow en journaliste.
Très bon follow.
Wow.
Autre titre, Cardi B s'est cassé une dent en mangeant un bagel.
Ben non.
Tell me more.
Mais Cardi B est comme en train de virer sur le top un peu.
Ouais, un peu Kenny.
C'est ça, exact. Elle s'en va dans la direction de Kenny. Là.
Malheureusement, ben bon, on ne peut pas contrôler ces gens-là.
Qui l'a cru, hein?
D'ailleurs, on ne peut pas non plus contrôler notre dernier titre, qui est « Émilie Bégin pose la tête en bas sur un catamaran ».
Ben non!
I guess que c'est mieux que la photo de son chum Guillaume, la tête à l'endroit, mais à côté du N-word.
Non, mais il l'avait pas vu.
Non, c'est ça. Hey,
il est tombé sur le seul arbre qui cadrait.
Il est assez mal chanceux.
C'est incroyable, hein?
Et sinon, Julie, cher dépositaire du temps, me reste-t-il un peu de temps?
Eh bien, écoute, deux petites dernières.
Ben, ça tombe bien parce que j'ai un nouveau segment cette semaine et c'est le segment « Ces multinationales qui nous prennent pour des piments ». J'ai été inspiré pour ce segment quand j'ai vu le PDG de Kellogg qui a dit qu'un bon remède contre l'augmentation du coût de la vie est de manger des céréales pour souper. Mmh. Bravo.
Je sais.
C'est facile à dire quand tu gagnes 4 millions de dollars.
C'est ça.
Mais croyez-le ou non, j'ai trouvé pire. Le PDG d'Exxon, l'une des plus grandes sociétés pétrolières au monde, a affirmé que le seul responsable des changements climatiques était les pauvres.
Ah! Hein? Mon Dieu!
Mettons que je paraphrase, il a dit qu'il pourrait produire des énergies fossiles par... des énergies fossiles.
Tu vois, j'étais bon dans mon imitation la semaine passée. Je fais direct dessus.
Mais au coup, pas. Des énergies fossiles moins polluantes, mais les gens n'auraient pas assez d'argent pour en acheter. Fait qu'ils ne font pas. Alors, vous l'aurez appris, sur Trop Moustiquaire, la crise climatique est uniquement attribuable aux mères monoparentales sur le BF qui chauffe des vieilles Sunfire couleur rouille.
C'est
uniquement à elles.
Épouvantable!
J'espère qu'il a dit ça comme à bord de son jet privé.
Ben oui, c'est sûr que oui. Merci de nous laisser sur une note aussi positive et pas du tout frustrante.
Ça fait plaisir.
Mais quand même, ça m'a manqué ces beaux titres du sac de chips. Et on part tout de suite en fausse publicité.
Nouveau! Cinéma IMAX maintenant offert en vidéo description. Vivez les grands classiques du cinéma en 3D audio. Grâce à nos centaines d'haut-parleurs indépendants sur 360 degrés, vous aurez réellement l'impression de couler avec le Titanic. Bonifiez votre expérience avec nos sièges conçus par le département d'aéronautique de Bombardier. Vivez Top Gun comme vous ne l'avez jamais vécu. 112 haut-parleurs. 600 000 volts, 44 000 ampères, 2 500 000 watts de puissance. Le cinéma IMAX en vidéo description. Deux oreilles, c'est pas assez.
Pour vrai, c'est vraiment une des très bonnes
publicités qu'on a faites à date. Et honnêtement, j'attends avec impatience que François Lambert m'appelle pour investir dans un cinéma IMAX pour non-voyants. Et mais en attendant, pour m'aider à patienter, on va parler entrevue de job dans la chronique de notre moustiquaire invité, Jeffrey Rioux.
Oui,
oui! Donc,
OK, donc oui, je vais vous parler justement d'entrevue de job. J'en ai passé une récemment, puis c'est ça. Premièrement, je l'ai vu, c'était une offre de stage en publicité.
OK.
J'ai vu ça sur Indeed, pas que je me cherche une job, là, mais au secours.
C'est mal.
Donc, c'était premièrement, il fallait envoyer donc, notre CV blend, là,
ouais.
Puis il fallait aussi envoyer un CV atypique. Donc, j'avais jamais vu ça. Puis c'était comme... C'est n'importe quel médium, là. Fait que ça soit une peinture, une sculpture, un vidéo.
Un NFT,
n'importe quoi que t'es comme à l'aise
une
avec.
Une dick pic. Non, excusez-moi, j'ai pas pu m'empêcher. Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui l'ont mal interprété. Hein?
Non, mais t'aurais pu, mais je pense pas que personne aurait été retenu d'accord. Avec ça. Puis c'est ça. Fait que là, déjà, je trouvais ça quand même bien. T'sais, c'est comme si, mettons, un pêcheur aurait fallu qu'il envoie son meilleur poisson, un scout qui envoie comme son meilleur nœud. Là. S'il envoie un nœud coulant, tu sais que ça va pas bien.
Son meilleur nœud.
Ben, ils font des nœuds dans ce coup.
Oui, c'est vrai.
C'est un peu ça. Fait que j'imagine qu'ils voulaient voir si on était créatif avant. Fait que
okay.
Là, moi, j'ai décidé d'envoyer un vidéo comme si j'étais pris dans une pièce sombre, post-apocalyptique, puis qu'il y avait comme des zombies. Je m'étais beurré à la face, puis j'ai fait comme si le stage était la seule chose qui pouvait me sauver. Ils m'ont sélectionné. Écoute, c'est sûr qu'ils rient au party de Noël.
Mais ils t'ont pris?
Ils m'ont pris pour le stage, mais là, ça, c'est un autre monde complètement, là, juste pour des entrevues, là. Fait que juste avec ça, ils m'ont pris, puis j'ai pu aller faire l'entrevue. Donc, c'est ça. Mettons, vous, si vous aviez eu à faire un CV atypique, qu'est-ce que vous maîtrisez? Genre, tu sais, il y a du monde qui a envoyé littéralement des lettres, des sculptures, qui sont allés le porter au bureau d'eux, là.
Okay.
Je sais pas si.
No joke, j'aurais fait quelque chose sur la blockchain, puis je leur ai dit mon CV sur telle blockchain, d'aller la chercher de telle façon, puis je leur ai dit ouvrez votre esprit, parce que ce que vous pensez, vous savez sur la crypto, ben c'est pas vrai. Puis pour vrai, vous allez l'utiliser dans votre vie, fait qu'aussi bien d'être parmi les premiers. Puis, ben en allant consulter mon CV sur la blockchain, mettons Arbitrum, ben vous allez développer de nouvelles compétences qui vont vous être utiles plus tard.
Wow, fait que t'aurais plugué ton, tes réseaux sociaux, justement, là, ton crypto-fil.
Ben, tu sais comment, hein? Du fil,
je l'ai plugué, je l'ai plugué au chauffeur d'autobus qui m'a amené ici, là, je veux dire. Vrai? Aucune misère à le plugger à LG2, là.
Dans son visuel, y avait-tu l'air de vouloir collaborer?
Ah, oh, il y avait l'air sans cause.
Tu m'étonnes. Moi, tu vois, j'aurais plutôt fait une vidéo parodique de pourquoi est-ce que Julie serait une bonne employée, une bonne stagiaire, whatever, et j'aurais fait tous les personnages d'une... Tu sais, j'aurais joué des gens qui vantent, mais qui me feront des éloges.
Costumier,
qui... Ben oui, quelque chose d'humoristique et de coloré, probablement.
C'est un peu ça, je verrais, ouais. Toi, Jeff, est-ce que tu...
Une cassette de silence,
Jeff? une lettre à l'anthrax. Il me semble que ça se distingue. Ouais, ça marcherait. Ah,
oui. Peut-être aussi ton move signature qui est de renifler très fort, comme Yannick de Martino.
Oui, oui. En 2011, effectivement, oui.
Donc, c'est ça. Fait que j'ai été sélectionné malgré tout, là. Puis, rendu là-bas, il y avait comme des stages, mais ouverts à tous les postes. Là. Fait que, tu sais, moi, c'était comme copywriter, rédacteur, en tout cas.
Okay.
Puis, il y avait des postes ouverts pour les monteurs, les stratégies marketing, les RH, tout. Fait qu'il y avait comme 100 personnes. Puis, on t'envoie dans la foulée et mingle, va faire du social. Mon cauchemar, là, tu sais.
Ah, du PR.
Il y avait des verres de vin, des petits boblés. Je prends un boblé, je m'en vais parler à du monde sur du small talk pendant comme 3 heures. Parce que tu passes comme une demi-heure là-dedans, mais c'est sur 3 heures. Fait qu'il faut que tu restes, tu jases au monde, puis comme tu fasses bonne impression, je sais pas, c'était vraiment super drainant.
Mais les boss sont là ou...
Sont là, tu sais, ils te regardent, puis c'est comme t'as ton name tag, puis t'as une heure particulière qu'il faut que t'ailles passer l'entrevue.
Est-ce que les boss sont genre des masques de chiens en or, puis ils te regardent, c'est comme des personnes anonymes derrière un rideau?
Pas ça, mais
Squid
comme...
Game?
J'ai écouté comme l'Empereur, je sais pas si vous avez vu ça, là, qui est justement sur une boîte de pub, là, puis c'est un gars super dégueulasse et violent, fait que j'avais comme un peu peur aussi, plein de monde, du monde qui te regarde, des caméras, des écrans, fait que ça a été quand même relax, là, avec Pointe de Pide, etc. Je l'ai pas eu, le stage, finalement, ça a pas marché.
Dis-nous, c'est qui, on va aller casser des...
Non, je peux pas dire c'est où, mais tu sais, mettons, mes deux sportifs préférés, c'est Sydney. Je vous dirai pas c'est qui. Fait que c'est ça, tu sais, c'était bien le fun, mais ça m'a comme replongé dans toutes mes entrevues de job que j'ai faites auparavant. Tu sais, j'en ai pas fait depuis avant le NH, avant l'école, tout ça. Fait que les dernières que j'ai faites, c'est genre pour la jalouse, un feu restaurant qui était à Rosemère, puis c'était super mafiosi. Je m'étais assis là avec comme pour la plonge en plus, là, n'importe qui va faire ça. Puis il y a un monsieur qui est rentré au même moment, habillé vraiment en complet, là, très sérieux, puis il a dit hey, toi, pourquoi tu vends pas de la poudre? J'ai dit monsieur, parce que j'ai 15 ans, puis là, je veux appliquer comme plongeur. Il a dit tu devrais vendre la poudre. J'ai fait ben voyons, je t'aurais parlé à toi.
À 15 ans, t'avais déjà le casting. Wow,
je sais pas, j'avais tous mes cheveux à cet âge-là, ça allait bien. Je sais pas ce qui se passait, mais finalement, tu sais, j'ai fait une seule soirée là, dans cette place-là, cet établissement noble. Puis, ben, il y a d'autres plongeurs qui se sont battus, ça se crachait dessus, ça lançait des assiettes. Fait que j'ai adoré ça. C'était merveilleux. Puis, genre, est-ce que vous avez des histoires un peu de stage, pas de stage, mais d'entrevues étranges, juste de jobs que vous avez pas gardés qui sont.
Moi, la pire drôle que j'ai eue, j'étais très désespérée financièrement et je suis allée porter mon CV dans un endroit sur Ontario-Est, assez crado, ce que je ne vais pas nommer par respect. Et puis.
C'est le blockhouse, hein?
Non. Ah. Et j'ai jamais travaillé au blockhouse. Le bureau du boss, c'est aussi grand qu'un garde-robe. On est carrément dans un garde-robe. Il regarde mon CV, il part à rire, puis il me dit: mais t'es ben trop éduqué pour être ici, va-t'en.
Trop qualifié déjà.
Moi, c'est que c'était une place très, très, très crade, mais j'avais tellement besoin de sous que j'étais prête à tout.
Fait qu'il avait quasiment peur que tu les dénonces ou quelque chose.
Possiblement, écoute, je le sais pas. Il trouvait que c'était du gaspillage, que j'aille travailler chez eux. Fait que il m'a dit bye bye. Bon. Bref.
C'est quand même spécial.
Mais... C'est très spécial.
Moi, mon entrevue la plus weird, en fait, c'est quand j'ai travaillé à peu près un mois pour une. C'est encore ça, mais j'ai travaillé pour une compagnie de crypto. Puis l'entrevue, c'était genre la fille, ma boss, elle a oublié que c'était l'entrevue. Je l'ai appelée, elle était en train de s'entraîner sur le tapis roulant de son gymnase. Puis elle a fait « Ah ouais, je t'avais oublié. Ben, faisons ça, là. » Fait que j'y parlais pendant qu'elle m'écoutait pantoute, là. Elle était en train de bouger de l'eau dans sa gourde, puis elle s'essuyait la sueur sur son FaceTime. C'était d'une absurdité. Wow. Puis il y a quelqu'un qui a demandé « Excusez, vous pouvez arrêter de parler, madame, parce qu'on est dans une salle d'entraînement. »
Wow.
Puis devant moi, elle a dit non, tu vas fermer ta gueule, mais je vais finir mon entrevue.
Elle a dit ça.
Ouais, c'est là que j'ai su que je passerais le reste de ma carrière dans cette compagnie-là. Non, j'ai travaillé comme 3 semaines, moi, à peu près, mais c'était vraiment particulier. Ah, après ça, qui l'eût cru, tu sais, je veux dire, faire affaire, travailler dans le monde de la crypto, pourtant, tu sais, tout le monde se serait attendu que ça soit super professionnel avec un département des ressources humaines, puis tout ça.
Pour être dans la vie, t'as-tu une pièce à chaque fois que tu dis le mot crypto?
Ouais, c'est ça. Hein? On est en train de penser s'il n'y a pas des commanditaires cachés quelque part. Ouais, pas de bon sens, ça.
Voulez-vous que je vous parle à fois que...
Non,
mais à la presse, il fallait faire un test, puis une des questions, c'était genre la capitale de l'Équateur. Pas besoin de me le dire, c'est Quito.
Ah, bon, ben super. Et puis toi, Jeff, ton expérience de job, la pire, d'entrevue, pardon?
Ben un peu comme film aussi, j'avais une entrevue à passer avec un questionnaire pour être à RDS, questionnaire que j'ai réussi par ailleurs.
Ben oui.
On est comme ça, toi, ben ouais. Phil. Puis c'était quand j'ai reçu le résultat de l'examen, c'était marqué que c'était excellent, sauf que j'avais des faiblesses en baseball. Ça m'a toujours fait extrêmement rire, des faiblesses en baseball.
Hey, nice. S'il y a une place où on veut pas avoir de faiblesses, c'est bien en baseball.
Eh oui. Je sais pas c'est quoi un retrait 6-2-4, malheureusement.
Ah, c'est impossible à comprendre les chiffres au baseball. Là. C'est comme tu commences au monticule, tu t'en vas au marbre, tu t'en vas au champ centre, puis après ça, c'est l'aréco, le deuxième but. Écoute, là, on dirait quelqu'un qui a dessiné une ligne au hasard, tu sais, comme relie les points là, des dessins. Là. En tout cas, ça, c'est mon petit.
C'était le segment sportif de l'émission.
On est-tu encore dans chronique à Jeffrey?
Ben oui, c'est ça aussi qui se passe.
J'ai interpellé, mais ça vraiment. Vous m'avez aidé, là, parce que j'ai pu une tonne d'affaires. Là. Je vous dirais presque que je suis à la fin.
Moi, c'est comme marqué, alors, je ne l'ai pas eu à la fin
ça,
de ta chronique.
Je l'avais déjà dit, ça, je ne l'ai pas eu, mais...
Je peux faire du temps, si tu veux.
Non. Alors, en terminant, tu retiens quoi de tout ça?
Bien, j'ai quand même trouvé ça intéressant. Là, le CV atypique, là, je pense qu'il y a plus de compagnies qui devraient faire ça. Là. Peut-être qu'on aurait des meilleurs employés à l'emploi, quoi. Mais c'est ça, je pense que c'est le fun, mais c'est comme trop big aussi, comme... comme univers, là, t'sais, il y avait comme 3 étages, c'était vitré, c'était beau. C'était pas pour moi.
C'était pas pour toi, regarde. C'est un signe de la vie. C'est un signe de la vie. Ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ouais. Bon, ben, si jamais il y a des gens qui... Au moins, tu passes des entrevues.
Ouais.
Ça, c'est bien. Ouais. C'est parce que des gens qui passent pas d'entrevues, c'est quand même, qui cherchent des jobs...
quand même mettre la barre un peu.
Écoute, hein, y en a qui cherchent du travail, qui passent pas d'entrevues. Alors, peut-être que ça va vous aider parce qu'on va partir tout de suite en publicité. Bon, ben, coudonc.
Elle était bonne.
Alors, on va partir dans ce cas-là, non pas en publicité, pardonnez-moi, mais bon, on va faire notre court segment astrologique dans ce cas-là. Ça vous tente-tu?
Oui!
Bon. Parle-moi ça, Maurice. Alors, bienvenue aux actualités célestes hein, avec nos dernières manchettes du ciel. On va commencer avec un trauma avertissement. Nous venons d'entrer dans la fréquence 663 Hz, fréquence de Dieu. attention, ce segment radiophonique contient des fréquences spatiales qui pourraient engendrer des changements physiques et mentaux. En effet, les hautes ondes pourraient vous affecter au point de ne plus voir ce qui est gravé ces arbres. Alors, je vous conseille de profiter de cette transition, un volume modéré, la gang. En manchette cette semaine, alors Mercure, hein, le dieu des communications, rejoint le nœud nord, notre destinée, en bélier, guidé par Mars, toujours en Verseau, fait place à l'entrée du soleil en bélier qui active la lune en lion. Autrement dit, c'est l'équinoxe Calis. Alors, évidemment, qui dit équinoxe dit oui, montée du Bitcoin. Malheureusement, Phil, ça sera pas suffisant pour récupérer le montant que tu avais mis de côté pour les études de tes filles. Par contre, nettoyer tes yeux avec tes larmes te permettra d'y voir plus clair. Alors, à savoir que mardi, Vénus va disparaître comme étoile du matin pour rencontrer Saturne. La date de ces deux planètes va donner le courage à ceux qui en ont besoin de s'afficher tels qu'ils sont. Comme Jeffrey, par exemple, qui va pouvoir enfin accepter qu'il a l'air d'un rescapé de la justice. Alors, mercredi, ça va être le jour de Mercure. Il sera plus facile de nourrir vos ambitions et de saisir les opportunités professionnelles. Mais pour ça, évidemment, des opportunités, il faut en avoir. Sorry, Jeff. Malheureusement, Mercure ne peut rien contre le fait que tes projets ont autant d'impact qu'un vernissage au restaurant au noir.
Ça finit en roast
concept. Alors, pour conclure ces actualités célestes, voici le petit conseil de la semaine. Faites attention à la lune en influenza. Si vous voulez profiter du buffet de la vie. Namasté. Là, c'est la publicité, pour vrai.
Vous cherchez une activité ludique et rassembleuse? Inscrivez le Bingo Radio de CIBL à votre agenda. Chaque semaine, courez la chance de gagner 3 500 $ en prix. Invitez vos amis et jouez avec nous tous les dimanches dès 13h. Pour participer, procurez-vous les cartes de jeu du bingo de CIBL dans un point de vente près de chez vous. Pour trouver des lieux, visitez notre site web au cibl1015.com sous l'onglet « Bingo radio de CIBL ». À dimanche prochain et bonne chance!
Hey Nancy, on a gagné au 649.
Mais t'offres pas avec ta toast, c'est juste 16 millions. Ça va-tu?
Mais là!
Prochain tirage du loto 649, 16 millions. Juste assez pour s'étouffer avec sa toast.
Zine Tonic, c'est une émission dynamique sur le fanzine, la culture underground et les archives littéraires au Québec. Je reçois une zineur zineuse pour jaser d'inspiration et de création. Chaque mercredi, 18h, sur les ondes de CBL 105 FM Montréal.
CIBL.
Avec nous, souvent ça dégénère. Dans le monde, il s'en passe des affaires. Sous le signe des moustiquaires, on n'a pas de salaire.
Yes, merci, choriste Phil, de m'avoir accompagné là-dessus.
Un peu sur le contretemps. Hein?
Oui, c'est ça, mais c'est pas grave, c'est bon, c'est bon. De retour, tout le monde, aux Trois Moustiquaires, votre fenêtre embrouillée sur l'actualité sur les ondes de CIBL 101,5. Ici Julie Fortin, toujours en compagnie de ceux que je considère comme mes fils, Jean-François Simard, Philippe Meilleur, puis le petit adopté, Geoffrey Rioux. Alors, une nouveauté aux Trois Moustiquaires, quelqu'un s'ajoute à cette magnifique ribambelle grâce à notre plus récent segment. Tout le monde en parle presque. Eh oui! Aujourd'hui, à Tout le monde en parle presque, on reçoit le journaliste, animateur, auteur, chroniqueur et spécialiste d'enquête de phénomènes inexpliqués, M. Christian Page. Bonjour, M. Page, vous m'entendez bien?
Oh oui, je vous entends bien, merci. Ben, merci de l'invitation.
Ben, ça fait plaisir. Alors, vous avez récemment publié votre dernier livre, « Quand les enfants tuent ». Qui rassemble 30 affaires criminelles sur les enfants qui tuent d'autres enfants. Ma question, c'est comment vous est venue l'idée d'écrire sur un sujet aussi léger? Hein? Pourquoi écrire sur des enfants tueurs?
D'abord, précisons que ce ne sont pas que des enfants qui tuent d'autres enfants, ce qui malheureusement est très souvent le cas. Mais on a aussi des enfants, par exemple, qui vont tuer leurs parents ou tuer des adultes là, pour différentes raisons. Et pourquoi le sujet m'a intéressé?
Ouais.
Ben déjà, au départ, vous avez mentionné que ma carrière, je l'ai fait surtout en enquêtant sur des phénomènes a priori inexpliqués ou mystérieux. Donc, les gens me connaissent surtout pour cet intérêt-là. Mais j'ai fait un peu, quelque part, l'école buissonnière. Là. On était au milieu des années 2000. Et moi, j'avoue que je suis né, je fais partie des derniers bébés boomers. Je suis né au début des années 1960. Et à un moment donné, au milieu des années 2000, un peu avec l'actualité, on avait cette croissance de la délinquance juvénile qui faisait, en fait, c'était pratiquement omniprésent dans les médias. Et je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que, je sais que ça fait toujours un peu de l'âgisme de se dire, oui, mais quand dans mon temps, c'était pas comme ça. Mm-hmm. Mais c'est vrai que j'ai beau revenir en arrière quand j'étais à l'école primaire ou au secondaire, bien sûr, on voyait de temps à autre des échauffourées entre les étudiants. Mais ça se terminait dans la cour d'école. Bon, c'est-à-dire, on chamaillait un peu, puis merci, bonsoir, ça se terminait. On n'allait pas jusqu'au meurtre. Et là, malheureusement, et on aurait peut-être tendance à dire, oui, mais peut-être parce qu'aujourd'hui, on en parle davantage avec les médias sociaux. C'est absolument faux. Les statistiques montrent, malheureusement, que le phénomène de la violence extrême, la violence juvénile, elle est en augmentation. C'est un phénomène qui est croissant, qui est exponentiel. Et c'est vrai qu'il y a plus de jeunes assassins aujourd'hui en 2024 qu'il y en avait en 1975.
Et vous l'expliquez comment cette montée-là, si c'est pas par les réseaux sociaux, par exemple?
Il y a plusieurs éléments. Hein. Les mécanismes sont très nombreux. Moi, quand je me suis intéressé à ça, donc, comme je l'ai mentionné, j'ai fait un détour de ma carrière sur le paranormal pour m'intéresser à ces jeunes enfants assassins.
Oui.
Et à ce moment-là, j'avais fait une série pour Canal D, hein, pour la nommer, qui a été très populaire, qui a été diffusée ensuite en anglais, rediffusée sur des plateformes comme Netflix, tout ça. Et là, donc, 15 ans plus tard, j'ai eu envie de revisiter ces jeunes parce que on le voit encore, malheureusement, cette violence, hein, ne serait-ce qu'au cours des dernières semaines, hein, ce père qui va dans une école et puis bouscule des étudiants, la mère qui se présente dans une autre école avec un bâton de baseball. On se dit, mais mon Dieu, mais où on va avec ça? Donc, j'ai eu envie de revisiter ces histoires-là. Vous l'avez mentionné dans ce livre, « Quand les enfants tuent », on parle de 30 histoires. Mm-hmm. 30 histoires, je tiens à le préciser, ce sont 30 histoires, j'allais dire que j'ai enquêté. Non, je ne suis pas un policier, je n'ai pas enquêté, mais que j'ai documenté. C'est-à-dire que pour les 30 histoires qu'on retrouve dans ce livre-là, je me suis rendu sur place, j'ai visité les scènes de crime, entre guillemets, j'ai rencontré des policiers, des avocats, des procureurs, j'ai eu accès aux minutes des procès, aux dossiers judiciaires et policiers. Mm-hmm. Donc, j'ai eu l'ensemble de tous les documents entre les mains. Et donc, j'ai revisité ces histoires-là. Vous l'avez mentionné très souvent, on est malheureusement dans des cas de jeunes, et quand je dis jeunes, on parle de 10 ans à peu près jusqu'à 17 ans, donc des jeunes qui vont commettre des crimes tout à fait monstrueux. Souvent, les jeunes tuent d'autres jeunes, mais c'est vrai que dans certains cas, par exemple, on a cette adolescente de 12 ans qui a convaincu, par exemple, son copain qui, lui, en avait 23, le double. On peut comprendre que pour les parents, c'est un peu préoccupant.
En effet.
Et qui, lui, d'autant plus, à 23 ans, se croyait un loup-garou âgé de 300 ans.
Donc, Dieu!
Mais c'est quand même elle l'instigatrice, hein, c'est cette préadolescente de 12 ans, Jasmine Richardson. Ça se passe au Canada, ça se passe à Medicine Hat en Alberta. On est en 2006. Elle va, parce que ses parents s'opposent à sa liaison avec ce loup-garou. on lit trop de Twilight ici.
Oui, c'est
parce
ça.
Que ses parents s'opposent avec sa relation avec ce loup-garou. Elle va comploter une soirée de meurtre où elle va assassiner ses parents et son petit frère pour pouvoir retrouver cette liberté que ses parents lui refusent. Donc, c'est tout à fait épouvantable. Et cette histoire-là, c'est la plus jeune tueuse de masse de toute l'histoire du Canada. Hein. Et n'eût été de quelques semaines, hein, elle avait 12 ans et 6 mois au moment des crimes. Bien, si elle avait commis ce crime-là 6 mois plus tôt, elle serait ressortie du palais de justice, libre comme l'air, parce qu'au Canada, on ne peut pas judiciariser un jeune de moins de 12 ans.
Wow.
Donc, cela étant dit, c'est quand même épouvantable. Et qu'elle sait, évidemment, on se pose la question, mais comment est-ce qu'on est assassin? Est-ce qu'on devient assassin? Pourquoi cette violence-là chez les jeunes? Parce que c'est vrai que le livre présente 30 histoires criminelles. Je me suis intéressé, bien sûr, aux victimes, mais je me suis aussi intéressé aux assassins. Qui sont-ils?
Oui.
D'où viennent-ils? Comment un jeune de 11 ou 12 ans en arrive à commettre des crimes aussi monstrueux?
Et vous, souvent... Vous en pensez
vous
quoi? Est-ce que vous croyez que...
Je parle, je suis très verbomoteur.
Il n'y a aucun problème. Mais est-ce que vous pouvez nous donner votre opinion là-dessus? Est-ce que avec tous les affaires dont vous êtes... avec toutes ces choses que vous avez épluchées, est-ce que vous pensez qu'ils deviennent comme ça? Ou on est un peu mauvais, entre guillemets? Je ne sais pas comment l'exprimer autrement.
C'est une grande question que posent en fait les sociologues depuis très longtemps. Est-ce l'inné ou est-ce que c'est l'acquis? Est-ce qu'on est assassin ou est-ce qu'on le devient?
Mm-hmm.
Et même si aujourd'hui, ça reste encore un sujet de débat, l'ensemble des spécialistes sont d'avis que même si, entre guillemets, on est avec le gène de la méchanceté, c'est surtout l'environnement qui va faire qui on est, qui va construire qui on est. Et vous ne serez pas étonné d'apprendre que dans le cas de nos assassins en question, à tout le moins ceux que j'ai couverts, 9 fois sur 10, ces jeunes-là venaient de familles complètement désorganisées,
dysfonctionnelles,
où l'abus était au quotidien. Et très souvent, ben, comme la violence est souvent la seule réponse que l'on trouve aux frustrations à la maison, ben, dans la cour d'école, la frustration s'exprime également dans la violence. Et on a mentionné en début d'entrevue l'histoire des médias sociaux.
Oui.
C'est un autre facteur. Hein. C'est parce que les médias sociaux, ce n'est pas le seul facteur. Là, je ne pointe pas du doigt chez les médias sociaux. Comme dans les années 80, on disait « Ah, c'est un crime satanique parce qu'il écoute du AC/DC. »
Il y avait même fait un procès contre la musique métal.
En effet.
C'est vrai. Il y avait eu une levée de bouclier.
Oui.
Là. Dès qu'un crime était commis, on fouillait chez l'assassin. Si on trouvait un disque de Led Zeppelin, c'était sûr que c'était un crime. Bon, c'est un peu la même chose ici. Il faut faire attention. Les médias, un peu comme la COVID, ça a le dos large. Là. Mais c'est vrai que les médias sociaux deviennent parfois une chambre d'écho. C'est-à-dire que le jeune qui se dispute dans la cour d'école, lorsqu'il quitte cette cour d'école-là, le crime n'est pas terminé. La violence, mm-hmm. le sentiment vindicatif n'est pas non plus terminé. On se retrouve chez soi, devant les médias sociaux. Parfois, on aura filmé l'altercation. Et là, les médias sociaux deviennent une chambre d'écho. Hein. On remonte ces images-là à la société et il y a le sentiment de vengeance. On veut avoir le dernier mot. Et ce dernier mot, on ne l'oubliera pas puisque la vidéo, elle circule dans les médias sociaux. Donc, à partir de là, les médias sociaux vont bien sûr contribuer d'une certaine façon à augmenter ce besoin de vengeance qui va se développer chez une communauté de jeunes, et alors que quand on, dans les années 60 ou les années 70, même 80, cette chambre d'écho-là n'existait pas. C'était simplement une rumeur qui circulait à l'école. « Hey, Jean-Paul, c'est une claque sur le nez par Bob! » Ça se terminait à ça. Ça se terminait à cette rumeur-là. Alors qu'aujourd'hui, les médias sociaux sont omniprésents pour présenter ça.
Oui, absolument.
Mais fondamentalement, que l'on soit un jeune né dans les années 60, dans les années 80 ou dans les années 2000, l'environnement est d'abord le premier moteur à cette violence-là.
Absolument.
Et malheureusement, la perte d'autorité, encore une fois, les gens diront « ouais, mais c'est de l'âgisme ». Mais moi, je me rappelle, par exemple, dans les années 70, si on nous disait « ben écoute, tu lèves encore le ton puis tu t'en vas chez le directeur, au monsieur qu'on s'assoyait ».
Aujourd'hui,
moins, hein.
Voilà, c'est ça. Donc, cette perte d'autorité, puis je dis pas que c'est toujours bon, là, je suis pas un sociologue, je suis pas un pédopsychiatre, je pense que plusieurs avenues, on a un terrain qui est fertile à proposer des avenues nouvelles. Mais c'est sûr que cette perte d'autorité, les médias sociaux, la violence qui est omniprésente chez les jeunes et qu'on banalise d'une certaine façon,
absolument.
Ben, éventuellement, tout ça constitue une situation dans laquelle, malheureusement, les crimes dans les communautés de jeunes, la criminalité juvénile va aller exponentielle.
Ben oui, absolument. Et Philippe, vous l'avez entendu, mes collaborateurs en studio, Philippe, Jean-François et Jeffrey. Alors, on aurait une petite question.
Ben oui, Monsieur Page, je profite de votre présence à notre émission. Qu'est-ce que vous pensez du récent phénomène des UAP? Donc, on dirait que ça a comme remplacé les ovnis, puis que c'est comme redevenu un sujet d'actualité dans les derniers mois. J'aimerais vous entendre là-dessus. Je sais que vous avez beaucoup écrit à ce sujet-là.
Est-ce qu'on a encore quelques minutes devant nous?
Oui. Oui, bien sûr.
Bon, allons-y. D'abord, ce phénomène-là des ovnis, hein, le mot ovni, on l'a remplacé par UAP, ou en français PAN, hein, phénomène aérien non identifié. Je pense que c'est simplement une volonté de prendre ses distances. Hein. Le mot ovni a été énormément stigmatisé avec les petits hommes verts et tout le reste. Et à partir de 2017, on reviendra pas à Mathusalem, là, mais à partir de 2017, il y a un nouvel intérêt pour la question des ovnis. Après la publication d'un article dans le New York Times, qui disait « Ah oui, mais même si le gouvernement américain dit ne plus s'intéresser à la question des ovnis depuis 1969, c'était pas tout à fait vrai. Il y avait eu quand même des petits programmes, faut quand même le dire, très modestes, hein, 20 millions sur 4 ans. Bon, pour moi, pour vous, 20 millions, c'est beaucoup d'argent. Mais quand on sait que le budget annuel du département de la défense aux États-Unis est de l'ordre, à tout le moins pour l'an dernier, de 850 milliards, j'ai bien dit des milliards.
C'est énormément d'argent.
Vous comprenez que 20 millions sur 4 ans pour enquêter sur des soi-disant ovnis, c'était pas grand-chose. Mais néanmoins, ça montrait que le gouvernement américain avait un intérêt pour la question.
Mm-hmm.
Et tout ça a ravivé l'intérêt du public. Et éventuellement, l'an dernier, le département de la Défense, avec ses pressions auprès du Congrès, les pressions auprès du public, ont décidé de mettre de l'avant un nouveau programme étatique pour enquêter sur les ovnis, ce qu'ils n'avaient pas fait depuis les années 60. Ce programme s'appelle ARO, hein, l'acronyme signifie en français Bureau d'identification des anomalies dans tous les domaines. Or, malheureusement pour les amateurs de petits hommes verts, tout juste de publier, il y a quelques jours à peine, c'est encore chaud, là, ce bureau, le ARO, vient de publier un premier rapport à caractère historique. Parce qu'on entend toutes sortes d'histoires, hein. Et c'est là qu'est le problème, c'est que les histoires circulent plus rapidement que la recherche. Hein. Si moi, demain matin, je dis si je bois du jus de carotte, ça guérit du cancer. Bien, on peut répéter ça à satiété le temps que le véritable médecin se penche pour étudier les vertus du jus de carotte.
Oui, absolument.
Et avant que ces études-là soient publiées, le jus de carotte miraculeux aura fait le tour de la Terre 25 fois. Et c'est un peu la problématique. Donc, au cours des derniers mois, il y a, c'est triste à dire, mais il y a aux États-Unis une espèce de lobby de la soucoupe volante.
Oui.
Ces gens-là font du fric. Ces gens-là, on les voit dans les médias, il y a de l'argent à faire, on va réussir à convaincre Netflix, on réussit à convaincre Discovery de faire des documentaires. C'est un lobby de la soucoupe volante et ces gens-là sont composés d'une vingtaine de personnes, de véritables escrocs du bon sens. Mais ça, c'est pas grave. Ils ont compris sur quel bouton et quel fil tirer, parce que malheureusement, dans le système américain, n'importe quel citoyen peut demander n'importe quoi. Et s'il réussit à convaincre des représentants au Congrès, l'affaire est digue d'eau, comme on dit.
Mm-hmm.
Alors, à partir de là, moi, si demain matin, je décide de m'intéresser aux nains de jardin, je réussis à convaincre en ma cause 7 ou 8 élus au Congrès, pour rappeler que le Congrès américain, c'est grosso modo 450 personnes. Donc, on va toujours trouver là-dedans des gens qui croient aux farfadets, mm-hmm. aux pissenlits, on va en trouver. Donc, le lobby de la soucoupe volante a réussi à intéresser quelques congressistes, quelques représentants au Congrès, et ces gens-là ont fait jouer leur pouvoir pour finalement mettre en place cet organisme d'enquête sur les ovnis. Mais malheureusement, mm-hmm. ça n'était pas leur affaire. Hein. C'est une affaire, c'est en train un peu de l'histoire de l'arroseur arrosé. Parce qu'en même temps, lorsque le gouvernement américain a dit « Bon, ben, puisqu'on nous donne des coups de pied dans le derrière pour mettre de l'avant un programme sur les ovnis, faisons-le. » Le temps qu'ils le mettent en place, notre fameux lobby de la soucoupe volante avait vendu des documentaires un peu partout, faisait la une de tous les journaux. Il était beau, il était fin, il faisait des podcasts. On les avait presque hissés au rang de Dieu. Mais à un moment donné, l'enquête allait suivre. Et l'enquête, elle vient d'arriver.
Oui,
que dit l'enquête? Depuis 80 ans qu'on enquête sur les ovnis, on n'a jamais... mais jamais trouvé la moindre preuve.
Absolument.
Je te l'avais dit.
C'est un débat qu'on a à l'émission depuis plusieurs mois. Moi, je pense que ça existe. Philippe pense que non. Et c'est très intéressant d'avoir votre opinion là-dessus. Je vous remercie beaucoup, Christian Page, d'avoir été avec nous pour cette entrevue.
Mais ça me fait plaisir. Alors, je rappelle, pour le livre, Quand les enfants tuent, c'est disponible depuis quelques jours maintenant aux éditions Saint-Jean. Et merci pour l'invitation.
Absolument. Ça a été un plaisir et j'espère sincèrement qu'un jour, j'aurai le privilège de visiter une maison hantée avec vous.
Ça serait très amusant.
Passez une excellente journée.
Vous aussi. Bonne journée.
Et oui, on rappelle que le livre de Christian Page, Quand les enfants tuent, est disponible dans toutes les bonnes librairies.
C'était full intéressant. Puis en plus, l'entrevue s'est terminée avec Philippe Oraison. C'est merveilleux. C'est mon rêve.
Ton rêve. Eh bien, Oraison. Moi, écoute,
Monsieur Page a dit qu'on avait trouvé aucune preuve en 80 ans.
J'ai besoin de plus que 10 minutes pour me convaincre, malheureusement. Et là, cette entrevue a été une transition parfaite pour notre prochain segment où Philippe, notre fil de course, va nous parler d'actualité, mais vu par l'œil de qui? Des enfants!
Ouais, ouais.
Alors, c'est parti pour l'Actuali Kids!
Mes enfants ne m'ont pas encore tué. Alors, je ne suis pas dans le livre et en plus, j'ai de l'autorité, hein, donc ça n'arrivera pas. Voilà, ben oui, hein, l'Actuali Kids, donc la rubrique qui nous permet d'explorer l'actualité grâce aux enfants. Cette semaine, les deux enfants s'appellent... ils s'appellent Léonie puis Viviane, ben c'est ça leur vrai nom. La première question que j'ai posée à Léonie et Viviane, hein, ben vous, je sais pas si vous avez vu, il y a une nouvelle émission pour... Nouvelle émission à Télé-Québec, Pignon sur rue.
Émission. Hey, c'est si drôle. Hein? On va pas arrêter de faire des reprises, Seigneur.
C'est malade. Pour vrai, il n'y a aucun show qui est à l'abri. Cré Basile s'en vient. Je suis pas mal sûr c'est dans le pipeline qu'elle part chez Zone 3. On va revenir au cabaret. Enfin, donc, Pignon sur rue, hein, première télé-réalité québécoise qui fait son retour. Alors moi, j'ai demandé à Léonie et Viviane, ben vous, quelle émission, si vous étiez directrice de programmation à Télé-Québec, vous aimeriez inventer? Alors voici ce que Viviane nous a répondu.
Une émission qui parle de la nature, de la forêt, et des sortes de feuilles, des sortes d'oiseaux.
Moi, j'ai pris, une émission sur la nature, j'étais comme, mais encore.
Mais il y en a déjà plein.
Mais là, c'est quand qu'elle a dit des sortes de feuilles. Mais non, mais attends un peu, là. Y a-tu vraiment comme
On a assez de stock pour 60 minutes sur les types de feuilles.
Ben là, la, bon, ben, la semaine verte, en ont sûrement déjà parlé.
Bon, en tout cas, moi, c'est le genre de concept que si j'étais un producteur, là, je ghosterais l'auteur pendant 6 mois avant de répondre. Bon, pas que ça m'est déjà arrivé, là, en tant qu'auteur
de l'expérience.
Julie a raison, ça fait comme 60 ans que la semaine verte,
la semaine
c'est juste
verte,
vivre là-dessus.
Ils font que ça.
Ben oui. C'est ça, genre, fait qu'en, en tout cas, bon.
Je veux dire, ta fille a tellement raison, là, je veux dire, elle vient d'écrire le programme qui est The Longest Runtime, genre l'histoire de
Rapid. Ben, wow.
Pour vrai, je l'envoie faire son cours de production à l'INIS demain matin. sinon, il y a un nouveau train à Montréal. Ben, un nouveau train, le REM, hein, bien entendu. Mais bon, quand je dis nouveau, ce que je veux dire, c'est qu'il est toujours en panne. Donc, j'ai demandé, pour vrai, il est plus souvent en panne que je suis fâché contre quelque chose dans la vie, puis je me fâche régulièrement.
En effet.
Donc, j'ai demandé aux enfants quel moyen de transport on devrait utiliser pour traverser le fleuve et voyager à Montréal. On écoute la réponse de Viviane.
On pourrait utiliser un bateau.
Ben, tabarnak.
Regarde-moi ça, c'est cool et efficace.
Ah, mais c'est parce que c'est ça. On entend le mépris dans la voix de Viviane. Il me regarde en disant d'où une rivière, ça se transforme en bateau. Genre,
la pomme n'est pas tombée loin de là.
C'est ça, ça se transforme en bateau. Pourquoi tu me poses la question, genre, hey, laisse faire l'INIS, on annule ça, on l'envoie au MTQ. Une vraie ingénieure. Sinon, il y a Léonie qui a quand même fait du pouce un peu sur l'idée de sa sœur.
Un sous-marin.
Let's go! Là, on jase. Moi, si je pouvais traverser sur la rive sud en sous-marin, toujours rendu aux Estérandes.
Ben, c'est sûr.
Honnêtement, c'est quelle autre occasion tu vas avoir d'être dans un sous-marin? Bon, OK, on va aller visiter le Titanic.
C'est ça que j'allais dire. Il n'a pas qu'il s'en m'avirer.
Il y a une bonne enquête.
J'ai écouté Marie Maud, évidemment, comme à toutes les semaines. Et puis, très intéressant. Hein,
À place de Vargin et 30, si on Vargin et un milliardaire cette semaine, c'était comme un changement de.
Franchement.
En vrai, il y a 2 semaines, ça n'avait pas de sens. Genre, en tout cas, un reportage dont on reparlera. Enfin! Donc, j'ai toutefois demandé des explications. On écoute les explications de Léonie.
Il y aurait genre comme une gare de train et là, le monde pourrait embarquer.
Ah! Donc là, on est toujours ici dans le sous-marin, mais qu'il y a une gare de train. Donc, on est comme dans un concept fusion entre mobilité durable et science-fiction qui n'a pas rapport.
Ou encore un TGV genre nautique. Un sous-marin qui va super vite.
Oui, c'est ça, une espèce de 20 milieux sous les mers, mêlé avec un train. En tout cas, on est en brainstorm, il n'y a pas de mauvaise idée, mais je pense que Mme Guilbeault devrait être à l'écoute.
Oui, je pense aussi.
Je pense que c'est ça. Alors, sinon, mon dernier sujet, c'était l'éducation. Hein. Bien sûr, mes filles vont à l'école et le ministre Bernard Drinville a décidé qu'il dévoilait un tableau de bord pour avoir toutes sortes d'informations sur l'éducation au Québec. Donc, moi, j'ai demandé aux enfants qu'est-ce que vous aimeriez ajouter à votre école qu'on pourrait suivre grâce à notre tableau de bord. Alors, on écoute la réponse de Léonie.
On pourrait amener nos animaux de compagnie.
Ça, c'est une bonne idée d'amener des animaux de compagnie à l'école parce que je pense que les profs, actuellement, ils manquent de défis.
On prenait des poumons.
Ouais, donc des poumons. Mais tu sais, je pense que ça serait cool d'ajouter à leur tâche, mettons, des hamsters, s'occuper de hamsters, être responsable de la vie d'animaux. Je pense que c'est ça que les profs demandaient au dernier, quand ils ont fait la grève.
Certain. Hey, d'ailleurs, je peux-tu faire une petite parenthèse concernant le bien des animaux? Hier, dans ma cour, il y avait un écureuil complètement mouillé, incapable de bouger, duquel j'ai senti le besoin de sauver la vie. Là, il était agonisant.
Non, mais il faut pas.
Ah ben oui, c'est très mal me connaître de penser que je vais laisser souffrir un animal. Ah ben oui, mis mes gants à vaisselle, j'ai fait une petite boîte là, tout ça, appelé la SPCA, sont venus le chercher puis tout.
Ils se sont déplacés pour un écureuil.
Ben oui, ils faisaient pitié.
Ils ont-tu donné un nom, quelque chose?
Ben moi, je l'ai appelé Béatrice.
C'est
attaché. Fait que c'est ça, je voulais dire, en sauvant les animaux. Je comprends.
Okay. Oui, bon. Ben, c'est une très bonne idée. D'ailleurs, j'ai soumis une idée semblable d'intégrer ça au tableau de bord. Donc, on écoute ce que j'ai dit moi-même à Léonie.
Ah, donc on pourrait suivre, en plus avec le tableau de bord, on pourrait suivre le nombre d'hamsters qu'il y a en même temps.
Ouais.
En direct.
Hein, c'est un oui convaincant.
Ouais.
J'aimais ça aussi juste imaginer Bernard Drinville qui est vraiment déprimé. Tu sais, Bernard Drinville avec son café le matin, bah, va regarder les hamsters. Puis là, il ouvre, mettons, ses tableaux de bord, puis la moitié des hamsters sont morts. Mettons, puis il fait juste comme.
Encore.
J'aurais dû choisir la culture, genre, comme ministère. Enfin, sinon, il y a Viviane, hein, on va terminer là-dessus, qui est revenue encore une fois avec sa fascination pour les chevaux.
Mais en même temps, des fois, il y aura des cours d'équitation pour les chevaux.
Viviane, tu vas à l'école publique. comment je te dirais bien ça, des cours d'équitation, ils ont de la misère à avoir des fenêtres qui ferment, genre, dans les écoles. Donc, c'est ça. Donc, ça risque pas de... Non, mais c'est drôle parce que là, je dis qu'il y aura pas de cours d'équitation. Enfin, j'ai brisé l'oreille de ma fille. Là, je fais du temps parce que Julie a de l'air en discussion, là, avec...
T'aurais aussi pu faire comme si de rien n'était, Phil. C'est ça qui est fantastique. On voit ça professionnaliste.
À chaque fois!
Il est pas capable que ça se passe bien du début à la fin.
Alors, l'équitation, pour vrai, à l'école publique, c'est non. Et pour l'instant, j'ai vérifié, le Bitcoin est toujours en bas $1 million. Donc, c'est pas de même la veille que tu vas faire
dire
l'équitation.
Ouais, qui n'est pas payé pour dire le mot.
Alors, j'ai fini, là. Arrange-toi avec ça.
C'est la pire fin de chronique que j'ai vue de toute ma vie. Alors, petit changement de programme, tout le monde. Il nous reste du temps, ce que je n'avais pas calculé. Mon Dieu, Phil, je te félicite aujourd'hui. Donc, ce qui veut dire qu'on peut se diriger vers notre segment le plus émotionnel. Oui, le débat.
Ouais.
Ben oui, mais Chris, bon, ben gars, c'est pas grave. On va le chanter.
Ne recommencez pas.
Non, OK, non. Monsieur, non.
Les gens sont attentifs à ce que vous avez dit.
De garder votre calme.
OK, oui, c'est le moment du débat des trois moustiquaires. J'impose un sujet à mes collaborateurs. Nous avons peu de temps, nous avons 4 minutes, alors je leur impose aussi leur sujet, leur position, pardon. Et ça, Phil, aime bien ça. Oui. Mais c'est pas tout. Dans leur argumentaire, ils vont devoir plugger des mots qui n'ont pas rapport. Puis il va falloir que les autres devinent c'est quoi. Bon, notre sujet d'aujourd'hui, et bien sûr, ce sera les extraterrestres. Est-ce que ça existe ou pas? Fait que Phil, tu vas dire que les extraterrestres existent.
Okay.
Et Jeff aussi, tu vas croire que les extraterrestres existent. Ils peuvent avoir la forme que vous voulez. Et Jeffrey, toi, tu vas penser que non. Alors, okay. Vous avez 10 secondes chaque pour commencer, pour dire votre opinion. Alors, allons-y, Jeff. Alors, toi, tu penses que ça existe? Et pourquoi?
Oui.
On voit que ça correspond à ce qu'on pourrait.
J'ai utilisé la même technique que la fille à Phil. C'était très éloquent. Moi, je pense que j'ai rien d'autre à ajouter.
Ah, mon Dieu, que c'est convaincant des réponses courtes. Hein? Prends des notes, Phil.
Alors, de mon côté, super. C'est sûr que les extraterrestres existent.
OK,
parce que...
va d'abord entendre Jeffrey pour entrer dans l'argumentaire ensuite. Toi, tu crois que ça existe ou...
Bien sûr que non. Écoute, on a entendu Christian Page nous le dire. Là, en plus de 80 ans, aucune preuve. On a que du fan footage pas plus crédible que le projet Blair. Écoute, c'est que des pixels là, qu'on voit.
OK, parfait. Alors, allons-y, débattez.
Regardez, les gars. Il y a à peu près des milliards et des milliards de d'étoiles et de planètes différentes de la nôtre. OK, c'est sûr que ça existe. Puis nous, qu'il y a de la vie à l'extérieur. Puis nous, sur la Terre, il y a des êtres humains qui sont pas tant au courant. Mettons, tu sais, du monde qui n'ont pas été en contact avec l'humanité. Tu sais, c'est genre du monde, mettons, ils savent même pas que le Bitcoin existe. OK? Bon. Mais si ces gens-là existent sur la planète Terre, c'est sûr que nous, on n'est pas au courant. On est cette personne-là, on est cette tribu-là, mais pour d'autres formes de vie. Je sais pas si... Tu sais, nous-mêmes, on a un exemple sur notre planète de gens qui sont de la même espèce que nous, mais ils ne savent pas qu'on existe. Mais on est là, puis on a de la technologie qui, pour eux, c'est de la magie. Tu sais, la blockchain, pour eux, c'est magique. Bon, mais eux, ils ne savent pas, là. Ils ne peuvent pas acheter des terres, mettons. Ils ne savent même pas c'est quoi un ordinateur ou Internet, OK? Fait que c'est sûr qu'il y a des extraterrestres qui font ça avec
JF, on dirait qu'elle espère juste ne jamais avoir à donner d'argumentaire en faveur des extraterrestres.
Oui.
Ah! Ça, c'est un gars qui sait où c'est qui s'en va. Ouais. Puis toi, Geoffrey,
écoute, les soucoupes volantes, là, on l'a prouvé, là, que dans les champs, ce n'était que de la machinerie de ferme qui ont fait tous les symboles. Là. Donc, c'est mon argument béton.
Moi, je suis sûr que ton mot, c'est la machinerie que tu n'avais pas.
Alors, oui, c'est le moment de guesser ces mots.
Si seulement j'avais
machinerie.
Dit mon mot.
Personne n'a rien spoté d'autre. Je pense que JF, c'était oui.
Moi, c'était oui.
Ah, bravo. Moi,
alors, notre metteur en onde, Maurice, guess pour Projet Blair, pour Jeffrey. Mais malheureusement, c'était pas ça. Ah. Désolé. Et c'était son seul
moi,
guess.
C'était quoi? C'était... Oui, c'était Super C. Donc, j'ai commencé mon intervention en disant Super, c'est mon tour.
Arc, t'as pas le droit de faire de jeu de mots.
Ben là, mais j'ai dit le mot qui m'avait été donné, là.
Bon, ben, hey, mon, mes chapeaux, chapeaux. Je l'avais pas vu venir, celle-là.
On
un jeu de mots.
Eh bien, sur un
on conclut ça. Débat. C'est notre meilleur débat. La prochaine fois, je vais vous laisser votre opinion, je pense. Mais oui, c'est déjà tout pour l'émission d'aujourd'hui. Hein. Ça a été féerique. Merci à mes collaborateurs d'avoir été là. Jean-François, Philippe. Toujours un plaisir.
Hey, merci, Julie.
Ah, écoute. Et on remercie aussi, évidemment, Christian Page d'être passé à l'émission pour briser mes rêves. Et puis, merci, Geoffrey Rioux, d'avoir été avec nous. Et je vous rappelle que le dimanche, il y a toujours le bingo de CBL. Et merci. On se revoit. Merci à Momo, Maurice Bolduc, pardon, pour la mise en onde. C'était Julie Fortin. On se revoit le 3 avril prochain, en direct cette fois, pour une autre émission des Trois Moustiquaires. Ciao, bye.
Bye bye.
Avec nous, souvent ça dégénère. Dans le monde, il s'en passe des affaires. Sous le signe des moustiquaires, on n'a pas de salaire.
Depuis plus de 30 ans, le journal mensuel Écho Montréal est le fier porte-parole de l'actualité politique, économique, sociale et culturelle au cœur de Montréal. Distribué gratuitement et rejoignant 200 000 lecteurs, Écho Montréal est aussi un véhicule publicitaire polyvalent en répondant efficacement aux besoins de différents annonceurs, comme dans l'immobilier ou tout simplement pour y afficher avis public ou services professionnels.
À lire ce mois-ci dans Écho Montréal. Entrevue exclusive avec Paul Saint-Pierre Plamondon, les gagnants du concours Le français, une langue qu'on aime, un système de corruption syndicale et en édito, une volte-face politicienne.
Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter notre plateforme numérique à ecomontréal.com ou à composer le 514-844-2133. 514-844-2133.
Salut, c'est Laurie Vachon. Dans Attache ta toune, tu vas découvrir les artistes d'aujourd'hui et de demain. Une heure de musique, une heure de découverte, c'est dans Attache ta toune, jeudi de 13h à 14h et en rediffusion le mardi à 15h.
Julie, Julie, on n'a pas d'enfant.
Il est 18h.
CIBL 101.5.
L'émission qui suit vous est offerte en